ce soir une réflexion sur le vide ou la vacuité. Quand on a demandé à Ajahn Chah qu'est-ce que ça voulait dire l'esprit vide, il a dit mais l'esprit vide, ça n'est pas qu'il n'y a rien à l'intérieur, c'est qu'il est vide d'obstacles mais plein de sagesse. La vacuité, c'est la nature de la conscience, on pourrait dire. Et il est vide de moi, de cet intérêt souvent obsessionnel pour moi, qui nous rétrécit, qui nous limite à nos envies, nos besoins, nos manques. Nos jugements. Alors, dans une retraite, l'intérêt pour ce moi est indispensable parce que nous ne pouvons lâcher que ce que nous connaissons. Et d'entrer en contact avec le qui suis-je dans l'instant, c'est ce qui permet de s'approcher de cette nature de la conscience qui fait que simplement rien ne change, je continue à vivre tout normal, mais les choses sont à leur place. En général, nous avons un objectif. Lorsque nous venons méditer, nous voulons atteindre quelque chose. Et c'est ce qui nous empêche de vraiment être ici et maintenant. L'autre jour, j'ai acheté à la poste un petit livre sur les balades à faire en Romandie. Et puis il y avait une jolie parole tout au début. Le chemin vaut mieux que la destination. C'est Confucius. Nous sommes en chemin. Qu'est-ce que nous voulons déjà être au but? Et si vous observez bien notre fonctionnement, souvent l'expérience n'est pas tellement super. Alors, j'aimerais tellement qu'elle soit autrement. Donc nous cherchons qu'est-ce que ça veut dire d'être vide de moi ou d'être plein de moi. Et pour ça, c'est important de se questionner qu'est-ce que c'est moi. Et dans une retraite, nous n'allons pas questionner le moi dans sa globalité, le moi que je construis avec la pensée, mais le moi tel qu'il s'exprime ici et maintenant. Juste maintenant, il y a quoi pour vous? En tout cas, il y a des sons, vous êtes en train d'entendre. Il y a la présence d'un corps. Il y a peut-être le sens de la vue pour ceux qui ont les yeux ouverts. Et quand je parle, évidemment qu'il y a une réponse à l'intérieur. Chaque mot que je dis crée un contact qui peut être neutre, il n'y a rien qui émerge, ni en intérêt, ni en désintérêt, ou ce qui peut émerger peut être de l'intérêt, ou de la non-compréhension, ou c'est riche, ça se passe sans cesse. Ce processus d'expérience est, parce que nous sommes en retraite, de contemplation de l'expérience. Il n'y a pas que l'expérience. Je sais que juste maintenant je parle, je donne un enseignement. Je sens quand il n'y a pas de mots, et quand tout d'un coup, ok, il y a de nouveau des mots. Et ça, c'est l'expérience directe. C'est par cette expérience directe que nous pouvons progresser dans la connaissance du qui suis-je. Ce n'est pas par nos bonnes intentions. C'est important de nommer de temps en temps les intentions. Mais c'est uniquement dans ce respect de l'expérience telle qu'elle est que le discernement peut s'approfondir. Je vais vous lire Mahabhuwa. Non, c'est pas Mahabhuwa, c'est un de ces moines qui s'appelle, j'adore ce bouquin, Tanpanya Vadamova ou quelque chose. La première. Ah, faut que j'arrête de faire ça parce que je m'enregistre, non, tu pipes. La première nécessité est de voir directement et concrètement comment différents aspects de l'esprit fonctionne en relation avec le tout. Ajahn Mahabhuwa faisait souvent référence à celui qui sait, différenciant l'esprit connaissant des états d'esprit, l'esprit connaissant des états d'esprit qui émergent et passent. La conscience représente la nature même de l'esprit, son essence la plus intime, qui est absolument et toujours non touchée par les changements ou la mort. La vraie nature de l'esprit est normalement cachée derrière des couches d'impureté, de confusion mentale, de pensée et d'émotion. Parfois, nous découvrons une partie de cette nature essentielle de l'esprit grâce à la méditation, gagnant ainsi une compréhension plus profonde et un sens plus essentiel de libération. La conscience. Nous ne sommes pas là pour bien faire les choses, mais pour les faire avec conscience. Nous ne sommes pas là pour avoir de bonnes expériences, mais pour voir les expériences qui sont là. Donc, ce que nous observons, c'est ce qu'on appelle la réalité conventionnelle, ou conditionnée, ou ordinaire. La dualité. Nous vivons dans la dualité. Dans l'impermanence. Quelquefois c'est tout bon, je comprends tout. Et puis après, waouh, je comprends plus rien. Alors on aime mieux comprendre tout que plus rien comprendre, vous avez remarqué. Nous aimons mieux avoir de bonnes expériences que des mauvaises. Et tout ça, je peux voir cette tendance de l'esprit. La première vérité qui dit que le monde est souffrance parce qu'il y a la naissance, et à la naissance nous perdons la nature de la conscience qui est large, ouvert et universel. Il y a la vie, la vieillesse, la maladie et la mort. Et la souffrance, c'est aussi être lié à ce et ceux que nous n'aimons pas. Et ça arrive en retraite. C'est être séparé de ceux et ceux que nous aimons. Et nous nous mettons en conflit avec cette première vérité. C'est comme ça. La nature humaine vit dans la dualité s'il y a une totale conscience de ce réel. Et une ouverture, une acceptation. Il n'y a pas de problème. Mais si je veux que la réalité conventionnelle soit à l'image de la réalité ultime, et c'est ça l'aveuglement, c'est que j'expérimente un manque en venant sur cette terre. Et j'aimerais tellement retrouver cette unification première. Alors j'essaye. Nous essayons d'être heureux. Nous essayons de faire que ça aille mieux ou de rendre l'autre heureux. et nous n'arrivons pas parce que ça n'est pas le programme. Mais ce que nous pouvons faire, c'est voir tout ça avec compassion et être en paix avec les moments où j'essaye, les moments où l'autre essaye, les moments où on se rencontre, c'est bon quand on se rencontre, et les moments où nous manquons à la rencontre. Nous pouvons peu à peu nous rendre compte comment nous créons nous-mêmes la souffrance en essayant d'être heureux, plutôt que de respecter l'instant et d'ouvrir le cœur et l'esprit aux choses telles qu'elles sont. Alors la question, c'est quoi faire avec tout ça? Comment créer cette priorité de la conscience sur l'expérience? Comment se lier à celui qui connaît ou celui qui voit plutôt qu'aux états d'âme qui arrivent et passent sans cesse et qui nous piègent, qui nous captent. C'est indispensable de développer cette conscience pour qu'elle puisse se rendre compte de son pouvoir et de sa puissance. Parce qu'il y a une confusion entre la conscience, celui qui voit ou qui ressent, et la chose ressentie. Et l'aveuglement fait que nous identifions. Nous identifions à nos états d'âme. Nous y croyons. Nous croyons que notre interprétation des choses est vraie. Et alors le moi n'est plus cet objet de mon intérêt bienveillant. Il devient celui que je dois changer, que je dois modeler, que je dois manipuler, contrôler, exiger. Il n'est pas OK, le pauvre moi. Et c'est sûr qu'en tant que moi, il n'est pas OK. Mais en tant qu'énergie dans l'instant, c'est juste ça et c'est OK, à la lumière de la conscience. Et c'est une connaissance intime et spacieuse. Qui est par nature bonne et bienfaisante. Alors c'est important de sentir cette différence entre ce vide de moi où il y a juste ça maintenant, quelqu'un qui parle. Juste maintenant pour moi c'est neutre ou plutôt agréable. Mais je sais que ça change, c'est pas toujours comme ça. Et ça, c'est cette conscience des choses telles qu'elles sont maintenant, le corps qui est là, et d'une certaine manière, c'est un vide de moi. Il y a juste ça. Et quand il y a un plein de moi, alors, je commence à m'inquiéter. Ça ne va pas être OK. Attention à ce que je vais dire. Ouais, attention, bah je m'enregistre. Je crois savoir ce que je sais. Je suis sûre que je sais. Ou bien je crois ce que le Bouddha a dit. Ou bien je suis très sensible au regard de l'autre. Aïe, aïe, aïe. Qu'ils vont dire de moi. Et c'est OK si je le vois. Si je vois,
J'ai peur du regard de l'autre. C'est génial. C'est le chemin. J'y suis. Mais souvent, je ne le vois pas. Et alors, il y a cette souffrance qui émerge et que je crée moi-même. Je la crée moi-même par manque de force, de conscience, ici et maintenant. Je me laisse avoir par l'aveuglement. J'aimerais partager une réflexion sur exactement ce qui se passe au moment où je peux dire je sais. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de connaissance? Comment est-ce que l'être humain, la nature humaine, peut développer une cohérence? Nous avons besoin de cohérence. C'est une cohérence conditionnée, mais elle est importante pour que nous puissions simplement vivre. Nous avons des sens qui nous donnent des indications, des informations, des couleurs, des formes, des sons, des sens tactiles, des odeurs, des goûts. C'est ça qui nous permet de connaître le monde. Et ces informations qui viennent uniquement à travers nos sens sont en contact avec un grand bagage d'informations, de souvenirs, de lecture, d'apprentissage, de ce qui constitue la mémoire, on pourrait dire. Et quand je vois quelque chose, il y a un contact entre cette perception extérieure et cette mémoire qui fait que la chose perçue est interprétée. Elle est définie de manière subjective par mon passé. Et nous pouvons bien voir cette subjectivité quand une même histoire est racontée par deux personnes différentes. C'est tout à fait d'autres choses qui touchent. Et le propre de ces informations qui sont interprétées, c'est que nous allons les percevoir comme étant objectives. Je crois que comment je vois le monde, c'est vrai, c'est objectif. Alors qu'en fait, ces informations n'ont rien à voir avec l'objet. Elles n'ont à voir qu'avec mon interprétation de l'objet. Si je vois Pascal, ça n'a rien à voir avec Pascal, ou très peu. Ça a à voir avec la réflexion en moi, ou plutôt le reflet de Pascal en moi. C'est important de sentir combien cette interprétation est puissante. Et dans une retraite, ce qu'on appelle le yogi mind, comme nous avons beaucoup d'espace, de temps, tout d'un coup, il y a une toute petite chose qui ne serait peut-être absolument pas même remarquée dans la vie ordinaire. Elle devient tout d'un coup tellement importante. Et nous construisons. Et nous avons heureusement la chance de voir que nous construisons. Parce qu'il y a suffisamment d'espace, que c'est le lieu pour. Alors nous pouvons voir comment, au fond, l'esprit connaît les effets de ce que nos sens nous partagent. La nourriture. J'adore ce truc. Ça peut être très fort. Mais celui d'à côté ne va pas adorer du tout. Et pourtant, ma perception, c'est vraiment, mais complètement délicieux. C'est essentiellement et avant tout conditionné. Après, oui, bien sûr, il y a cette réalité subjective. Et même lorsque nous sommes en silence, peut-être, nous avons nos préférences. Nous aimons bien celui-ci, bien celui-là, les chemins de méditation. Nous avons nos chemins de méditation. Voilà que je veux aller méditer et puis quelqu'un a pris mon chemin. Ça peut être très fort, quelqu'un a pris mon chemin. C'est à mon petit chien que je dis toujours, parce qu'il aboie les gens qui passent sur le chemin devant chez moi. Je lui dis toujours, mais c'est pas ton chemin. Je me souviens à la dernière retraite que je donnais avec Meg. À un moment donné, je suis allée marcher dehors et puis je me suis dit, aïe, 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 où est-ce que je vais aller pour ne pas prendre le chemin de quelqu'un. Donc peu à peu, nous comprenons combien l'esprit ne connaît pas la chose en elle-même, mais connaît l'effet causé par la chose qui nous est donnée à travers nos sens et nos perceptions. Et c'est l'entier de notre expérience. C'est l'entier de notre expérience. Même quand on a un microscope ou bien on crée ces outils pour améliorer nos outils, nos sens. Mais c'est toujours nous qui créons. Et évidemment qu'étant donné qu'il y a ces moi groupes, ces nous groupes, nous sommes dans l'aveuglement tous ensemble, alors nous sommes sûrs ensemble. Donc, ce que je vois, son, entends, goûte et touche arrive, je ne sais pas pourquoi. C'est les joies de l'incertitude. Nous ne savons pas pourquoi telle chose nous capte et telle autre moins. Pourquoi est-ce que nous avons ces préférences-là plutôt que des autres? C'est comme ça. Et quand un contact nous a intéressés, que nous y avons posé notre attention, il y a ce phénomène de comparaison ou de représentation, d'évaluation de la chose qui donne un sens. Et alors nous tirons des conclusions cohérentes dans un système conditionné. Quand je parle de ça, j'aime bien donner l'exemple de la Terre. Vous êtes d'accord, on est tous ensemble d'accord que la Terre est ronde. Il n'y a personne qui se bat sur cette planète au sujet du fait que la Terre est ronde. Il y a d'autres sujets de conflit, pas celui-là. Mais il y a 1000 ans, bon, peut-être plus, il y a combien? Non, il n'y a pas 1000 ans, c'était quand? C'était avant la Renaissance. Enfin, il y a un certain nombre d'années, de centaines d'années. On tuait les gens parce qu'ils disaient que la Terre était ronde. Alors, dans 1000 ans, quel regard l'homme portera, s'il existe encore, sur l'homme du 21e siècle qui croyait que la Terre était ronde? Oh, mais les pauvres! Vous vous rendez compte, ils croyaient que la Terre était ronde. Il y aura un autre système de pensée qu'on ne peut même pas imaginer. Et qui fera qu'on verra bien que c'était logique de penser que la Terre était ronde avec ce système de pensée-là. Mais il y en aura un autre. Donc avec le contact, les ressentis, je ressens à travers mes sens et la mémoire, nous trouvons que c'est bon ou pas bon, que c'est favorable ou non favorable, que c'est plaisant ou déplaisant. Et du coup, ce qui est plaisant, je le veux, ce qui n'est pas plaisant, je ne le veux pas. Et comme je crois au système de pensée qui est derrière, ou à la vision du monde qui est derrière ce processus, j'entre en conflit. Nous pouvons même entrer en conflit au sujet de la spiritualité, de l'unification. Qu'est-ce que c'est qu'être un ? Parce que la pensée est mise en priorité de la conscience. La conscience n'est pas la pensée. La conscience est première à la pensée. Il y a d'abord l'expérience et la conscience de l'expérience, et après l'interprétation. Donc à nous d'éclaircir et de démêler un peu ce processus pour arrêter ce plein de moi qui prend pour objectif ce qui est subjectif. Et ça commence avec les obstacles. Je viens pour faire une semaine de méditation, pour être au calme, pour trouver un peu de paix, je viens m'asseoir et puis c'est l'horreur. Il y a tout le temps des pensées. C'est drôle, la dernière retraite ça allait tout bien, maintenant ça va pas. Les obstacles. Qu'est-ce que vous faites vraiment quand un obstacle émerge? Et comment pouvons-nous sentir l'expérience telle qu'elle est, et rester dans la contemplation de cette contraction qui vient quand ça n'est pas conforme à ce que je souhaite. Ou comment est-ce que je sens le grignotement venir et le piège se fermer et voilà, je suis en pleine expérience d'identification. Au moins, peut-être, dans une retraite, j'ai une chance de le savoir. Et l'identification en soi n'est absolument pas un problème. Je le vois. Je te vois, Mara. Si l'esprit est agité, c'est juste un esprit agité. Si l'esprit est impatient, ennuyé, révolté, réactif, résistant, c'est juste un esprit aversion, dans l'aversion. Si il est en train de projeter la bonne concentration, c'est juste du désir. S'il est en train de somnoler, de rêver, d'être tranquille mais pas là, c'est juste de la torpeur ou de la somnolence. Et comme il n'a pas tout à fait ce qu'il aimerait, le doute arrive. C'est juste du doute. Où est le problème? La question n'est pas est-ce qu'il y a oui ou non du doute, c'est est-ce que je le vois? Se souvenir que la conscience, ça n'est pas, ou plutôt l'esprit, n'a rien à voir avec les états d'esprit. L'esprit, c'est ce qui est commun à nous tous. C'est cette compétence de la nature humaine qui crée un fil d'or avec la conscience, la nature de la conscience, et qui est la possibilité d'être ici et maintenant. C'est une merveille. C'est tout simple, c'est une merveille. Parce que c'est le fil rouge qui permet d'aller à la libération totale de toutes les impuretés, toutes les confusions. C'est toute la différence entre être réveillé. En général, on est à peu près réveillé quand on se lève le matin. Et être éveillé. Dans une retraite, ce qui nous est demandé, c'est d'enlever le R. Ah ouais, je sais, maintenant je suis réveillée. Ah ouais, je sais, je suis en train d'enfiler mes chaussettes. Ah ouais, je sais, je vais déjeuner. Ah ouais, je sais, c'est bon, moi, l'heure de déjeuner. Enfin, avant, il y a une heure d'assise qui était géniale ou terrible. J'aimerais juste vous lire un petit bout que j'ai trouvé beau dans la fin d'un poème de Rilke. Alors, c'est une traduction de moi, de l'anglais, alors, évidemment, mais ça veut dire ce que ça veut dire. À travers les branches nues, il y a le ciel. C'est ce que tu as. Sois juste maintenant comme la terre et son chant éternel. Sois le sol qui repose sous le ciel. Sois juste maintenant humble, comme une chose qui doit mûrir jusqu'à ce qu'elle devienne réelle, pour que celui qui a tout créé puisse te sentir quand il cherchera à te joindre. Être là avec les choses ici et maintenant, c'est être vide de moi, parce que le moi s'exprime par la pensée. Et quand je travaille cette qualité-là, ce qui est universel, ce qui est espace autour de moi, commence à parler. Et je l'entends, j'entends le silence. J'entends l'espace. Il n'y a plus que ce corps et cet esprit. Il y a tout le reste. Et les autres. Et alors, le combat s'arrête. Ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Elle est là. Et tant qu'elle est là, elle est là. Mais quand la mort vient, c'est ok. Parce que c'est seulement ce corps-esprit qui s'arrête. Mais la conscience, rien ne peut l'arrêter. Elle n'est pas née, elle n'est pas morte, ça n'est pas la fin de quoi que ce soit d'autre que de se plaindre de moi. J'avais une amie qui avait perdu son papa et sur le faire-part, c'était écrit « Avec toi, la vie est dans la mort. Sans toi, la mort est dans la vie. » Alors, ça faisait référence à Dieu, mais c'est cette présence à l'instant. Sans que nous soyons présents, nous sommes juste réveillés, mais d'une certaine manière, notre vie est morte. Et avec cette présence, alors il y a cet éveil. Et notre vie devient vivante. Quand j'étais toute jeune, là je viens d'aller écouter Ajahn Sumedho à Amaravati. Quand j'étais toute jeune, on avait eu une discussion sur la vie et la mort. Et je me souviens, il avait dit avec un grand rire, en parlant de la mort, « Oh, I can hardly wait. » Je peux à peine attendre. Ça m'avait beaucoup touchée. Et là, Maravati, il est vieux, il a 82 ans, il marche avec un moine qui le soutient, une canne. Un soir, il n'est pas venu parce qu'il n'était pas bien. Puis le soir d'après, il est venu. Puis à la fin de son enseignement, que j'adore parce qu'il est tellement simple et pointu, et straightforward. Il dit, ouais, bah hier soir, je ne suis pas venu parce que, vous comprenez, je vous vois pas très bien, je vous vois plus, vous comprenez, j'ai une macula. Puis il se met à rire. Puis alors les médecins sont venus, puis ils m'ont fait des piqûres dans les yeux, puis il se met à rire. C'était un enseignement, j'ai trouvé merveilleux, de... En même temps, ce corps et cet esprit vivant, il faut en prendre soin, il est là, on fait de notre mieux. Et de cette autre réalité qui fait que je sais que ça n'est pas la totalité de ce que je suis. Ça commence et ça finit avec les petites choses. Là, j'ai trouvé encore une parole sur la joie de la présence. Votre façon d'être là peut être une attitude qui maintient le fil d'or avec votre profondeur. Il peut s'agir de laver une assiette, de faire à manger, de marcher ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez faire le ménage de façon superficielle en pensant à autre chose, mais vous pouvez aussi vous engager de telle façon que cela développe votre intériorité. Vous pouvez arroser une fleur sans que votre esprit y soit totalement engagé, juste parce qu'elle a besoin d'eau, mais vous pouvez aussi en faire un geste d'amour et alors c'est tout autre chose. Parce que nous développons la conscience, et la conscience en pali c'est Sammasati, c'est une conscience sage ou juste, une conscience qui s'intéresse à la totalité de l'instant, qui arrête de choisir. Alors, la compréhension s'éveille. La sagesse, le discernement. Et je vois que je ne suis pas l'expérience. Je le réalise. Et c'est ça qui ouvre la porte à l'amour et à la compassion. Parce que je ne suis plus à l'étroit. Je ne viens plus me fermer dans mes inquiétudes pour l'autre, pour le monde, pour moi. Je sais, c'est imparfait, mais c'est bon. C'est là que nous avons à grandir avec ce qui est là, juste maintenant, avec l'autre tel qu'il est, avec moi tel que je suis. Et nous sommes ensemble pour approfondir ce regard-là. Encore Ajahn Sumedho qui dit, et je vais finir avec ça, nous ne pouvons pas changer le monde, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, mais nous pouvons changer notre regard sur le monde.